Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, la presse. Au programme, cri d'alarme pour encadrer l'intelligence artificielle rapidement. Nos enfants sont sans avenir, et si c'était les vôtres? Et la chouette du Mont-Royal et nos investissements. Bonne écoute!
Cri d'alarme pour encadrer l'intelligence artificielle rapidement. Un texte de Pierre Saint-Arnaud paru le 20 mars 2023 dans la presse. Il est urgent pour les gouvernements d'agir afin d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle car la vitesse à laquelle elle se déploie présentement représente un risque pour la démocratie, pour de nombreux emplois et pourrait aggraver les inégalités. C'est le cri d'alarme lancé dans un ouvrage conjoint par MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle et l'UNESCO, intitulé « Angle mort de la gouvernance de l'intelligence artificielle ». L'un des 18 auteurs du livre, Joshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de MILA, souligne par exemple que le fameux outil ChatGPT de la firme OpenAI devrait être un signal d'alerte pour la population, pour les gouvernements. Oui, des choses très positives peuvent sortir de tout ça, mais la puissance de l'intelligence artificielle a atteint un niveau où on a besoin de porter notre attention là-dessus pour éviter des choses négatives, pour minimiser les effets négatifs. Risque pour la démocratie et les emplois. Il place au premier chef de ses inquiétudes le risque de l'utilisation de ces outils d'une manière qui serait dangereuse pour la démocratie. On a entendu parler, par exemple, des deepfakes, des images, des vidéos, des sons qui sont synthétisés par ordinateur avec ces mêmes technologies-là et qui peuvent être utilisés pour manipuler les gens parce que les gens sont manipulables, rappelle-t-il en faisant référence à la désinformation de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut vraiment mettre en danger le fondement de notre société. Ça prend juste une élection et qu'on élise un dictateur qui prend tous les outils, qui prend le contrôle. On a vu dans les dernières années que ce sont des dangers de dérapage qui existent, ajoute-t-il. Du côté socio-économique, il affirme qu'il faut s'attendre à un impact significatif sur le marché du travail, l'intelligence artificielle étant une voie rapide vers l'automatisation. Est-ce qu'on a le filet social qu'il faut pour faire face à ces transformations rapides, par exemple? Pour mettre en place les protections dont on a besoin, ça va prendre du temps, ça va prendre des années et on voit la vitesse à laquelle la technologie se développe. Il faut aussi s'y atteler assez rapidement. Une nécessaire inclusion. Une autre inquiétude réside dans le fait que les outils d'intelligence artificielle sont principalement développés dans les pays occidentaux, souligne Benjamin Prudhomme, directeur exécutif de l'intelligence artificielle pour l'humanité chez MILA. Il faut qu'on s'assure de développer l'intelligence artificielle de façon inclusive. Il faut qu'on s'assure que toutes les populations sont représentées. Donc, il faut que ce soit vrai des hommes blancs, mais il faut aussi que ce soit vrai des femmes, des peuples autochtones, des personnes racisées. C'est quand même un risque sérieux. En effet, comme l'explique Joshua Bengio, l'architecture de ces systèmes et leurs algorithmes se construisent sur des masses de données tirées d'innombrables textes et images et, de ce fait, vont ainsi perpétuer les biais, les discriminations qu'ils trouvent dans notre culture. Aussi, ajoute Benjamin Prudhomme, l'intelligence artificielle a le potentiel d'aggraver des inégalités nord-sud, des inégalités à l'intérieur des États entre différentes populations. Il faut prendre ces risques-là au sérieux et réglementer. Investir dans la sociologie de l'intelligence artificielle. Car une chose est certaine, ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes qui viendront s'auto-réglementer. Ces entreprises ont un historique de développer les technologies à la vitesse grand V sans trop se préoccuper des conséquences. Selon le professeur Bengio, cela a tendance à changer avec des employés de plus en plus conscients des impacts de leur outil, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'on investisse pas seulement dans l'informatique de l'intelligence artificielle, mais dans la sociologie de l'intelligence artificielle, dans comment on doit repenser nos règles au niveau gouvernemental, comment on doit repenser la société. L'intelligence artificielle, dit-il, a le potentiel de générer des profits considérables, et ce, pour un nombre très restreint de joueurs, avec les risques que cela comporte. C'est surtout le pouvoir, la concentration de pouvoir, la concentration de richesses. Il faut que l'intelligence artificielle soit au service de tous. Ça veut dire que la richesse qui est créée, il faut qu'elle soit redistribuée. Il faut qu'on se donne les moyens de la redistribuer. Une gouvernance locale et internationale. Conférencière invitée lors du lancement et co-autrice de l'ouvrage, la professeure Kate Crawford de l'Université Southern California Annenberg et chercheuse principale à Microsoft Research a fait valoir que l'effort d'encadrement de l'intelligence artificielle doit non seulement être domestique, mais doit aussi transcender les États et se faire à l'échelle internationale, comme ce fut le cas lors de la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je ne pense pas qu'on a les outils de gouvernance internationale avec suffisamment de dents aujourd'hui, mais il faut s'y atteler, renchérit Joshua Bengio, qui reconnaît que, dans le domaine nucléaire, il a fallu une douzaine d'années avant d'y arriver, ce qui serait impensable dans ce cas-ci. Il associe l'effort d'encadrement requis pour l'intelligence artificielle à celui de la lutte contre les changements climatiques, deux domaines où il faut absolument presser le pas car l'urgence est déjà là. Il a fallu des années pour le nucléaire, mais il faut s'y mettre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est super important et c'est le même problème avec le climat. Si on baisse les bras, en disant qu'on ne peut rien faire, c'est la pire chose. Pour Benjamin Prudhomme, le Canada a un rôle crucial à jouer dans ce domaine. Le projet de loi C-27 sur l'intelligence artificielle et les données, en cours d'adoption, peut servir de déclencheur. 1. Ça prend du leadership à l'international. 2. Ça prend du leadership dans certains États importants et je pense que le Canada a un projet de loi assez ambitieux en la matière. Honnêtement, au rythme du processus parlementaire, je pense que le Canada va peut-être être le premier pays à réglementer. C'était « Cri d'alarme pour encadrer l'intelligence artificielle rapidement », un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 20 mars 2023 dans la presse.
Nos enfants sont sans avenir. Et si c'était les vôtres? Un texte d'Anouk Lanouette-Turgeon, Isabelle Perrin et Annick Larose, paru le 18 mars 2023 dans La Presse. Anouk Lanouette-Turgeon est co-responsable de Parents jusqu'au bout, conseillère en emploi, autrice. Isabelle Perrin est personne ressource du Comité des usagers du CRDITED de Montréal. Annick Larose a été directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle de 2015 à 2021. Nous sommes trois mères aimantes et battantes pour nos enfants qui ont une déficience intellectuelle. Trois mères terrifiées devant l'avenir, résolument en colère face à l'invisibilité chronique de nos enfants, et forcées d'espérer une révolution. Notre constat est brutal. Nos jeunes subissent des pratiques rétrogrades qui correspondent à de la négligence institutionnalisée, c'est-à-dire systémique. On les prive de leur potentiel, on ignore leurs rêves, on les oublie devant l'écran éteint de leur avenir. Accepteriez-vous ce traitement pour vos enfants? Lou, 12 ans. Dans nos écoles, les enfants ayant une déficience intellectuelle sont regroupés par niveau. Déficience légère, modérée, sévère, profonde. On ne parle plus ouvertement de QI, quotient intellectuel, mais les évaluations qui permettent de décider dans quelle classe ira un enfant incluent néanmoins des tests d'intelligence. Accepteriez-vous que votre enfant soit classé selon son quotient intellectuel? Pourquoi cette pratique est-elle normale pour les enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle? On nous dit que c'est pour le bien de nos petits, pour l'attribution de services éducatifs adaptés à leurs besoins. Sauf que mon fils Lou, nom fictif, a été éjecté de l'école qu'il fréquentait quand sa déficience intellectuelle est passée de légère à modérée. Il a été coupé de tous ses amis et du milieu dans lequel il évoluait depuis 4 ans, ce qui est déjà d'une violence à pleurer. Mais il y a pire. Malgré sa déficience modérée, Lou est une espèce d'intello. Il a une facilité remarquable avec les mots. Or, en classe DIM, déficience modérée, on a cessé de lui enseigner à lire. Les enfants en DIM suivent le programme CAPS axé sur les habiletés sociales. Exit les apprentissages académiques. J'ai hurlé. La nouvelle école m'a entendu, on les remercie, et a réintégré l'enseignement de la lecture dans le plan d'intervention individualisé de Lou 3 mois après le début de l'année scolaire. Devrais-je me réjouir? Impossible. Je pense aux autres élèves. Désolé, les cocos. Si vos parents ne savent pas gueuler, vous apprendrez à lire dans une autre vie. Je réalise aussi que mon fils termine le primaire demain et que j'ai oublié de faire une crise pour qu'on lui montre aussi les chiffres. Zut! Thomas, 19 ans. Accepteriez-vous que, du jour au lendemain, votre enfant ne puisse plus fréquenter son milieu d'apprentissage à temps plein parce que les listes d'attente sont trop longues? Imaginez que, par souci d'équité, du haut de sa pyramide, un gestionnaire ait décidé de saupoudrer des services afin que davantage d'usagers puissent en bénéficier. Les parents sortiraient dans les rues si tous les enfants étaient touchés, non? Cette réalité silencieuse est celle des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme à Montréal. Depuis la pandémie, les services auparavant offerts à temps plein en centre de jour, plateaux et ateliers de travail sont donnés par bloc pour un maximum de 3 jours par semaine. La belle affaire! Et ces jeunes adultes qui se bercent les 4 autres journées, et ces mères et pères qui travaillent, ou doivent cesser de travailler? Thomas a 19 ans. Dans 2 ans, ce sera le grand saut, sans parachute. Son parcours scolaire sera fini. Et son rêve d'apprendre à lire, remisé. Qu'est-ce qui l'attend? Qu'est-ce qui nous attend comme parents qui auront atteint la 60aine? Et surtout, qu'advient-il de cet engagement de l'État? Mon enfant handicapé, malgré tous les défis auxquels il sera confronté dans la vie, deviendra un citoyen à part entière dans un Québec inclusif et ouvert à la différence? Marie, 28 ans. Accepteriez-vous qu'à l'âge de 21 ans, au terme de son parcours scolaire, votre jeune plein d'énergie soit plongé dans un vide abyssal, sans projet, sans ressources? C'est la réalité de ma fille, Marie, à qui nous tentons de bricoler un emploi du temps avec les rares activités que nous pouvons trouver. Comme le confirme la Société royale du Canada, la pandémie a touché de façon disproportionnée les personnes comme ma fille et leurs proches. Le saviez-vous? Qui en parle? A-t-on mis en place du soutien? Pas du tout. Malgré les pertes de repères, un état dépressif, des appels à l'aide, silence radio. On nous a même dit qu'il faudrait que notre fille tente de se suicider pour avoir du soutien. Au bout du rouleau, devant l'état anémique des services offerts, j'ai pris la difficile décision de quitter mon emploi pour assumer mon rôle de proche aidante auprès de Marie. Ce tableau n'est pas très original, malheureusement. Nous sommes légion dans la même situation. Le temps passe, je vieillis. Comment ne pas anticiper ce qui arrivera à ma fille quand mes forces s'amenuiseront ou que je mourrai? Où ira-t-elle vivre? Dans une ressource intermédiaire? Ce lieu répondra-t-il à ses besoins? Comme société, n'avions-nous pas décidé, il y a 50 ans, de sortir les personnes handicapées des hôpitaux psychiatriques pour les intégrer dans la société et accroître leur pleine participation sociale? À l'ère de l'inclusion et de la diversité tous azimuts, nos enfants sont ignorés, invisibilisés, tenus au silence, de façon systémique. C'est contre la charte. C'est une violation ouverte de la dignité humaine. Et c'est une insulte à notre intelligence collective si une telle chose existe. On fait quoi maintenant? À défaut de révolutionner un système sourd et aveugle, nous sollicitons votre solidarité de citoyens, de parents, d'alliés. Il y a au moins 170 000 personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle au Québec. Ça fait beaucoup de rêves d'inclusion sur la glace et de parents qui manquent de voix à force de crier. C'était « Nos enfants sont sans avenir ». Et si c'était les vôtres? Un texte d'Anouk Lanouette-Turgeon, Isabelle Perrin et Annick Larose, paru le 18 mars 2023 dans La Presse.
La chouette du Mont-Royal et nos investissements. Un texte de Nicolas Bérubé paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Pendant longtemps, j'ai cru que la chouette du Mont-Royal était une légende urbaine. Je passais en ski de fond devant un grand arbre où la rumeur voulait que loge une chouette rayée. À 5 ou 6 mètres du sol, je pouvais voir dans l'arbre une cavité noire et profonde qui semblait sortir tout droit des pages d'un conte pour enfants. En théorie, me disais-je, une chouette pourrait y loger. En pratique, il n'y avait pas de chouette. J'ai skié des dizaines de fois devant l'arbre. Chaque fois, la cavité était vide. C'était même devenu une blague dans ma famille quand on passait par là. « Oui, papa, on le sait. » C'est le trou de la chouette, mais il n'y a pas de chouette. Je skiais avec mon ami Laurent pendant une tempête de neige le mois dernier quand on est arrivé devant l'arbre. Par habitude, j'ai tourné la tête vers le trou de la chouette. La chouette y était. On aurait même dit qu'elle souriait. En une seconde, on est passé de la légende urbaine à la réalité. Risqué, les fonds. La chouette du Mont-Royal m'est revenue en tête lorsque la question du passage de la théorie à la réalité a surgi dans l'actualité. On sait tous que la défaillance d'une grande banque américaine est possible, mais on n'a pas vu ça souvent, pas depuis le crash de 2008-2009 qui a poussé le système bancaire mondial jusqu'à son point de rupture. Une banque peut être victime d'une ruée quand un grand nombre de clients perdent confiance et décident de retirer leur argent en même temps. Les anciennes banques avaient de grands halls d'entrée pour éviter qu'une file se forme sur le trottoir et fasse peur à tout le monde. C'est ce qui s'est produit lorsque le gouvernement américain a dû sauver récemment la Silicon Valley Bank, la 16e banque en importance aux États-Unis. Durant 39 ans, 3 mois et 4 semaines bien exactement, les clients de cette banque californienne ont mené leur vie comme ils l'entendaient. Puis, en une journée, ils ont été émotionnellement catapultés dans un état de stress extrême, se demandant comment leur entreprise et leur famille allaient survivre sans argent. Et des millions d'investisseurs autour du monde se sont demandé si le système bancaire mondial était menacé. Tout d'un coup, des questions théoriques liées à la sécurité de nos placements en cas de catastrophe ne semblaient pas si théoriques que ça. Je me demande s'il existe des risques à placer de l'argent dans de grands fonds aux États-Unis ou au Canada, m'écrit Eric. Ce n'est pas très sexy comme sujet, mais ça aurait le mérite d'en rassurer plusieurs, dont moi-même. Alors, faut-il avoir peur? La réponse courte, non. La réponse longue, les fonds dans lesquels nous investissons sont fortement protégés. Vous écoutez La chouette du Mont-Royal et nos investissements, un texte de Nicolas Bérubé paru le 19 mars 2023 dans la presse. Le Canada, un modèle. L'industrie canadienne est l'une des mieux structurées au monde, dit Richard Morin, président d'Archer Gestion de portefeuille à Montréal. Même concert de modèles à l'international. Chaque fonds commun de placement, ce qui inclut les fonds négociés en bourse, FNB, est une personne morale, souvent appelée entité légale, une fiducie ou une division d'une fiducie, qui est distincte du promoteur ou du gestionnaire du fonds. Par exemple, en tant que gardien de valeur, State Street Canada détient les actifs des FNB, BMO, Vanguard et BlackRock, dit Richard Morin. C'est un scénario extrêmement peu probable, mais la faillite d'un de ses promoteurs ne mettrait pas les actifs de ses fonds à risque. Yann Gascon, président et fondateur de Placement IDEMA à Montréal, abonde dans le même sens. Le fonds est une entité légale distincte du gestionnaire du fonds. Donc le gestionnaire, même s'il fait faillite, peu importe, l'entité légale qui détient les actifs demeure viable. Les actifs qu'elle détient, elle les détient toujours. Des lecteurs m'ont parfois écrit pour me dire qu'ils investissaient dans deux fonds très similaires, l'un chez BMO et l'un chez Vanguard, par exemple, dans le but de ne pas tout mettre dans un même fonds. Compte tenu de la structure des fonds, un tel geste ne présente aucune protection additionnelle, dit Yann Gascon, qui est aussi l'auteur du blog « Les FNB démystifiés » du journal « Les Affaires ». Il n'y a pas d'avantage à faire ça. Ça ne vaut pas la peine de dédoubler nos placements. Dans le cas de la faillite de son courtier, soit l'entreprise avec laquelle on fait affaire pour détenir, acheter et vendre des fonds, le client est couvert par le Fonds canadien de protection des épargnants, FCPE, à hauteur de 1 million de dollars par type de compte détenu, note Richard Morin. Par exemple, le FCPE couvre jusqu'à 1 million pour les comptes non enregistrés et le compte d'épargne libre d'impôt, CELI, 1 million pour les régimes enregistrés d'épargne retraite, REER, fonds enregistrés de revenus de retraite, FER, et autres. et 1 million pour les régimes enregistrés d'épargne-études, REEE. Quant aux comptes bancaires, la Société d'assurance dépôt du Canada, SADC, protège jusqu'à 100 000 $ dans un compte chèque dans le cas de la faillite extrêmement peu probable d'une grande banque. Ceux qui détiennent des placements aux États-Unis sont aussi protégés. Le Securities Investor Protection Act, SIPA, offre une protection de 500 000 $ américains sur l'argent et les actifs par type de compte détenu d'une société de courtage. Dans la quasi-totalité des cas, lorsqu'une société de courtage cesse ses activités, les actifs des clients sont tout simplement transférés à une autre société de courtage. Finalement, le plus grand risque pour les investisseurs est de vendre lorsque l'on croit que le marché va baisser, pour ensuite acheter lorsque l'on croit qu'il va monter. Amener cet élément viscéral fait assurément diminuer nos rendements par rapport à la personne qui ne prête pas attention à ce que font les marchés. Bref, le plus grand risque pour la sécurité de nos placements ne vient pas d'un événement mondial, mais plutôt de la personne que l'on voit lorsqu'on regarde dans un miroir. C'était « La chouette du Mont-Royal et nos investissements », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 19 mars 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, Daniel Vieillette et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.